Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yogan Monnier et je vais vous présenter. Oh, mais c'est pas la première, ça, en fait. Vous présenter cette étude que j'ai faite quand j'étais à l'INRA de Montpellier, avec la collaboration des labos AMAP, EcoSol et puis de plein d'autres personnes, en fait. Et dans cette étude, on va s'intéresser donc à la haie et aux intérêts d'avoir une haie et surtout jusqu'où on va avoir les intérêts d'implantation de la haie, surtout au niveau souterrain. Sur des questions de stockage de carbone et de l'influence qu'il va y avoir sur ce stockage, des systèmes racinaires alignés à l'arbre et des modifications des communautés microbiennes. Alors, notre expérimentation, on l'a mise en place sur le domaine de la phage, qui est un domaine INRA, d'une unité expérimentale qui fait de l'élevage et qui bosse surtout sur des questions de génétique animale avec l'INRA de Toulouse. Et ce domaine, en fait, il avait l'avantage pour nous d'avoir un système de culture en interface avec une haie assez ancienne, qui était en fait le système qu'on cherchait pour avoir des effets assez nets. Donc là, on voit la prairie, qui était une prairie temporaire de la quatrième année, donc dernière année de prairie temporaire, une haie avec des arbres assez âgés de 20-25 ans, et des fosses qu'on a fait en partant de la haie et en rentrant comme ça dans le champ, de 0 à 13 mètres de longueur et de 2 mètres de profondeur. Et c'est là, une fois les fosses faites, qu'a commencé le gros boulot. On a cartographié toutes les racines le long des quatre profils de sol qu'on avait, de manière continue. Donc les racines ligneuses, de 0 à 1 mm, de 1 à 2 mm et de supérieur à 2 mm, là on prenait le diamètre, dans des mailles de 10 sur 10 cm tout le long. Bon, on a aussi pris en compte les racines herbacées, mais là de manière systématique et pas continue, parce que ben, sinon on y serait toujours. Et ça nous a donné une cartographie racinaire tout le long du profil, comme ça, avec donc un gradient de couleur qui symbolise la densité racinaire dans ces mailles de 10 sur 10. Ici, pour les racines fines ligneuses, donc quand c'est blanc ou gris, là, on n'a pas de racines ligneuses. Et puis vert ou vert foncé, on a une forte densité. Donc on peut voir déjà, ah oui, et les racines grosses, c'est symbolisé par les cercles, la localisation des racines grosses. Et là, on peut voir que sur les 50, voire 1 mètre de profondeur, on a quand même une densité ligneuse assez élevée, jusqu'à 4 à 5 mètres, et une présence de racines ligneuses qui peut aller jusqu'à 7, 8 mètres selon la fosse où on se situe. Et ça peut descendre aussi jusqu'à 2 mètres de profondeur, avec une densité assez élevée, jusqu'à 3, 4 mètres de la haie. On retrouve quand même des racines ligneuses jusqu'à 2 mètres de profondeur. En projetant ça avec les racines à la densité racinaire herbacée, donc là pour trois profondeurs différentes, à 10 cm, 50 cm et 1 mètre de profondeur, on a un peu le schéma inverse en fait. On a une densité racinaire herbacée qui va commencer à augmenter au bout de 8-7 mètres quand on est en surface et qui va augmenter un peu plus tôt quand on est à 50 cm de profondeur. Et ça marque bien un chevauchement finalement des deux systèmes racinaires, mais aussi un phénomène de compétition. Puisque là où la densité racinaire ligneuse diminue, donc ligneuse de la haie, on va avoir une densité racinaire herbacée qui va, elle, augmenter. Et on retrouve ça au niveau des concentrations en carbone, qui suit un peu ces deux modèles, c'est-à-dire qu'en surface, à 10 cm de profondeur, on a des concentrations de carbone qui augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la haie, légèrement. Et en profondeur, là j'ai pris l'exemple d'un mètre cinquante, on a des concentrations de carbone qui vont chuter brusquement avec l'éloignement à la haie. Alors pour parler en un peu plus compréhensible, sur des stocks de carbone, on a calculé des stocks à l'aide des densités apparentes du sol, de notre profil de sol. Ça nous donne une quantité de carbone par surface ou par volume de sol. Et si on projette ça par exemple sur une aire choisie du domaine de la phage de 22 hectares, et qu'on imagine demain, on a 12 belles lignes agroforestières intraparcellaires avec des arbres bien développés de 20 ans, une belle strate intermédiaire, etc. Qu'on projette les résultats qu'on a eus, on pourrait arriver à un gain de presque 22 tonnes de carbone par hectare sur ce système par rapport à un système sans non agroforestier. C'est avec beaucoup de si, hein, il faut imaginer. Et voilà. Et ça, c'est. Ah ouais, je suis presque. Et donc ça, c'est dû à des mécanismes différents en fonction de où on se place sur ce gradient à la haie, qui implique les systèmes racinaires différents, des micro-organismes, et dont on pourra discuter plus tard dans la discussion. J'essaie de me tenir aux 5 minutes, c'est pas mal.
Alors, bonjour Yogan, merci beaucoup pour ces données. Peux-tu nous dire la hauteur des arbres et pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin? Parce que visiblement, aussi bien en profondeur qu'en distance, apparemment la haie va encore plus loin.
Oui. Alors, la hauteur des arbres, c'était entre 20 et 25 mètres. On s'est mis au pied de deux grands érables qu'on a choisis. Pas plus loin parce que vraiment on a toujours des racines mais on a des densités très très faibles. Ça c'est la fosse où il y avait justement cette longueur d'enracinement la plus grande. L'autre fosse, à partir de 7-8 mètres, on n'avait plus rien. Donc voilà, comme ça prenait quand même beaucoup 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 de temps. Voilà.
Mais ça aurait vraiment le coup d'aller un peu plus profond. Est-ce que la pelle le permettait? Non.
C'était, du coup, il fallait choisir une autre pelle et puis là on arrivait vraiment sur la roche mère.
Sur la roche. D'accord. Parce que pour nous, les arbres, leur prélèvement en eau en profondeur, c'est très important dans le fonctionnement du système. Et c'est vrai que avoir enfin un profil d'arbre exhaustif et de savoir jusqu'où il descend, ça aurait été génial. Nous, on n'y arrive pas. On a des sols, on sait qu'ils descendent à 5-6 mètres. Et on n'arrive pas à savoir vraiment jusqu'où ils vont. Et c'est toujours dommage. Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est d'avoir un tout petit peu de profil racinaire dans la haie, enfin de l'autre côté. Pour comparer, pour savoir si ce qu'on a de ce côté, c'est la même chose, plus ou moins que ce qu'il y a dans la haie, en fait.
Ouais, ben là, il aurait fallu défoncer la haie, quoi. Non. Oui, au niveau de l'intérêt, oui. Par contre, on rajoute, surtout qu'au niveau de la haie, ça commence à changer. On commence à avoir un sol qui, quand même, est plus caillouteux, beaucoup plus rocheux. Oui, dans l'intérêt, oui.
Merci, Johan. J'ignorais complètement que des gens s'étaient penchés sur ce sujet avec autant d'ardeur. Enfin, Christian qui demande si vous avez fait... Enfin, il aurait fallu 4 ans, j'imagine. Moi, ma question, c'est plus sur le travail du sol, dans ce que j'ai compris. Donc, la parcelle, elle est en polyculture élevage, 50 prairies, on casse, on fait peut-être un maïs derrière un blé. Et donc,
orge, je crois.
Une orge, oui. Et donc, la question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une influence des racines quant à aux pratiques de travail du sol?
De décompactage ou de...
Décompactage, labour, fissuration, sous-solage.
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça modifie même très fortement la teneur en matière organique. On avait vraiment un croissant comme ça d'horizon très organique. Avec, oui, à ce niveau-là, à partir jusqu'à 2-3 mètres de distance, une texture très très grumeleuse, sur tous les horizons, quoi. Chose qu'on ne retrouvait pas quand on s'éloignait. Et puis vraiment, avec les 20 premiers centimètres très enracinés quand on a 10 mètres, et après, un sol compact, quoi.
Donc, cette parcelle, en fait, elle était menée en labour, entre guillemets, classique, dans ce type de rotation depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des pistes sur des parcelles en non-labour? C'est la grande question, puisque nous, en tant que conseillers agroforestiers, on leur indique que les racines plongent, qu'il se passe plein, plein de choses lorsqu'on fait un travail du sol assez proche de la haie ou de l'arbre, de l'alignement d'arbres. Donc, est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que tu as croisé d'autres personnes qui ont fait ce travail en technique sans labour?
Non, à part Rémi Arestinclair, Rémi Cardinal, non. Et c'était du labour et c'était... Non, ce travail-là, il n'est pas beaucoup fait, voilà, parce qu'il est très long, très dur. Et après, voilà, au niveau de l'architecture racinaire, moi, je n'ai pas vu de différence par rapport à l'idée qu'on avait, c'est-à-dire quand même une forte densité en surface qui descend. Labour, pas labour, au final, je sais pas à quel point ça va influencer vraiment la distribution racinaire de l'arbre, quoi. Même en zone labourée perturbée, je pense qu'il recolonise très rapidement, assez rapidement la surface. Là, on voit que les grosses racines qu'on a, qui sont en fait des racines de plusieurs années, elles sont là, elles sont à partir de 20-30 cm de profondeur. Donc, il ne met pas en place des racines pérennes de long terme dans les 20 premiers centimètres. Mais 20 cm, c'est très peu finalement par rapport à la surface explorée, quoi.
Tu as des diapos complémentaires qui m'intéressent. C'est quand tu parles des patchs de racines. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que j'avoue, je ne les comprends pas. Voilà.
Eh bien, alors ça, c'est les zones, pour l'illustrer, tout à la fin, c'est les zones où on avait des grosses racines en profondeur, avec des racines intermédiaires, donc de 1 à 2 mm, et des fines de 0 à 1 autour. Et c'est des zones où nous, on remarquait une différence de coloration, on remarquait des fois d'autres différences, et donc j'ai voulu essayer de les traiter séparément par rapport au gradient, en fait. Donc, pour ça, bon, j'ai fait un exemple là-haut de la grosse racine et des autres racines intermédiaires. Pour les traiter séparément, en fait, j'ai considéré ma surface enracinée là, comme un ensemble. Je me suis abstrait des distances et des profondeurs. J'ai fait une classification hiérarchique pour que chaque maille, finalement, toutes les mailles se ressemblant soient regroupées. Ce qui m'a permis après de travailler sur des indicateurs de sol ou des valeurs d'indicateurs d'activité microbienne sur uniquement ces mailles-là, les mailles où on a des grosses racines.
Oui, ma question c'était, les grosses racines sont les petits ronds noirs.
Oui.
Et tu as mis des patchs autour, mais on ne voit pas plus de racines dans ces patchs qu'ailleurs. Je ne comprends pas ça.
Non, il n'y a pas plus des racines, mais il y a des propriétés de sol différentes. Okay. C'est pour ça que j'ai centré, oui. Par rapport dans ces zones-là, il y a des propriétés de sol différentes, par exemple, ici et ici. Aux zones où on a des racines quand même de l'arbre, mais que des fines et pas des grosses. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a paru intéressant sur le travail et sur le fait d'avoir ouvert une fosse, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail scientifique sur les traits fonctionnels des racines, etc. Mais finalement, tout ce qui est un peu compliqué comme données à accéder, et notamment ces grosses racines, on ne sait pas trop comment les interpréter.
Tu peux montrer la diapositive sur les micro-organismes, les quotients métaboliques, je pense que c'est ça qu'il faut montrer.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on a la respiration induite. Donc là, c'est un substrat un peu particulier qui est un substrat phénolique, donc assez difficile à dégrader normalement pour les micro-organismes. Et on voit finalement que ces patchs de grosses racines, on a des communautés microbiennes qui sont adaptées à ce substrat un peu compliqué et qui savent très bien le métaboliser. Et là, on a le quotient métabolique, c'est finalement l'activité microbienne divisée par la biomasse microbienne. Et on a un quotient très fort, ça veut dire que à ces zones-là, on a des micro-organismes qui sont très efficaces, en fait, beaucoup plus efficaces que dans les zones autour.
Alors, ça renvoie à une question, ce sera ma dernière, sur toute cette crainte qu'on a sur le priming effect, l'effet d'amorçage. Est-ce que finalement ces racines d'arbres profondes sous la prairie vont avoir un effet positif ou pas en termes de carbone dans le sol? Il m'a semblé que l'effet très positif que tu voyais, il est très près des arbres, mais pas vraiment plus loin sous la prairie. Et que donc, on pourrait avoir cette crainte que finalement, la stimulation de l'activité microbienne par l'arrivée de ce carbone en profondeur sous la prairie n'ait pas un impact aussi positif que qu'on le voyait. Et ça me renvoie sur ton estimation de 22 tonnes par hectare de carbone stocké. Si on avait une haie comme ça tous les je ne sais pas combien, en combien de temps?
Et oui, je me suis abstrait du temps. J'ai fait une image maintenant. Oui, et c'est vrai. Et il a sûrement lieu, ce priming effect. Après, il y a aussi ces racines qui vont être décomposées, les micro-organismes qui sont autour qui vont aussi faire du carbone, et toute cette notion de carbone stocké durablement ou pas, sous des manières stables ou pas. C'est pour ça que là, en gros, les deux groupes de racines profondes, c'est celui-là et celui-là. Donc, dans le groupe C, on n'a que des racines ligneuses fines et moyennes. Et dans le groupe A, on a des fines, des moyennes, et mais surtout des grosses. Et là, on a quand même une différence entre, finalement, une concentration de carbone dans le sol autour ou pas. Donc, ça veut dire que la somme, on va dire, des mécanismes qui interviennent, priming effect, quotient métabolique plus élevé, etc., fait quand même qu'on a une concentration de carbone plus élevée dans ces zones-là que dans les zones profondes aussi, mais sans grosses racines.
Bien, on va laisser la parole au public. Donc, des questions ?
Bonjour, Christophe Soto. Je fais de l'accompagnement de projet principalement sur la région centre. Tout d'abord, merci pour la présentation très intéressante. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu au niveau de la répartition des racines, est-ce qu'il y a une corrélation aujourd'hui par rapport au type de sol, texture, présence d'éléments grossiers ? Est-ce que ça, c'est des choses qui ressortent ou pas ? Et puis, effectivement, après, je rejoins la question de Jean-Charles, où, effectivement, en fonction des types de travail de sol, des profondeurs, de la fréquence de travail du sol, ça, effectivement, c'est des questions qu'on se pose et on n'a aujourd'hui pas de réponse. Merci.
Oui, ben non, il faut aller chercher les réponses, en fait. J'en ai pas non plus. Pour le sol, c'est vrai que nous, bah, théoriquement, on devait avoir que du sol. Hein, et puis, on avait des zones comme ça, des carrés de 10 sur 10, où on avait que de la roche, en fait. Donc, voilà, il faut aussi s'adapter à ça. C'est-à-dire que toute la biblio que moi, j'ai pu faire, c'est dans un monde théorique où il n'y a que du sol, quoi. Cette roche, pourtant, elle est présente et il y a des racines qui pénètrent dans la roche et qui modifient un petit peu la roche et qui stockent des choses. Et tout ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a aucun accès. Et voilà. C'est vrai que là, ce serait intéressant d'aller chercher. Après, on a eu la chance quand même d'avoir du sol jusqu'à 1,50 m, 2 m de profondeur. Il y a plein de zones où il n'y en a pas. Il y a plein de zones où ce travail-là, il n'est pas faisable. Et où le stockage de carbone, moi, j'ai aucune idée dans ces zones-là, rocailleuses du sud-est de la France, par exemple.
Est-ce que ces techniques-là, qui sont assez lourdes au niveau temps de travail, etc., est-ce que ça pourrait être complété par de l'imagerie depuis la surface pour justement travailler sur les infractuosités, enfin les bilans hydriques ou des choses comme ça, ou même les densités racinaires, puisqu'il y en a qui vendent des prestations comme ça.
Ouais, ce serait super. Alors, les prestations vendues, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, essayer d'aller voir comment c'est sans faire de fosse, j'ai un petit peu regardé, ça ne m'allait pas ce qu'il y avait. Voilà. Pour tout ce qui est hydrique, c'est vrai que je ne sais pas parce que ça m'intéressait au début et très rapidement, j'ai éloigné la question parce qu'il fallait se concentrer sur quelque chose et que ça a été le carbone. Voilà. Mais par contre, pour savoir comment les racines sont distribuées sans aller voir, on ne sait pas faire encore, quoi.
Bonjour, Antoine Marin de la Scop Agrouf. De plus en plus, on invite les agriculteurs à avoir une gestion dynamique de leurs haies. J'entends du recépage, par exemple, pour faire de la plaquette forestière. J'ai bien compris que ce n'était pas l'objet de la thèse, mais quel profil racinaire pourrait induire un recépage régulier tous les 15 ans sur la haie.
Un recépage, en général, ça fait en sorte qu'il y a aussi une dynamique racinaire plus forte derrière. Donc, par contre, après, à comment les racines de structure, les grosses racines, si elles réagiraient ou pas, et où se ferait la réaction le long de ces grosses racines, non, je ne pourrais pas dire. On peut voir, hein, on peut faire.
J'ai une question qui fait vraiment suite à celle-ci. Tu as parlé que vous avez réalisé des fosses auprès de deux arbres. Tu parles de haies bocagères. Sur la photo aérienne, il m'a semblé voir plutôt une lisière forestière. Au regard de ma typologie des s'entend, hein, sur mon territoire notamment, est-ce que vous avez pris la peine justement de bien caractériser la situation de cette haie ? Quelle est-elle ? Pour être capable de reproduire sur d'autres typologies de haies et d'avoir éventuellement des résultats différents, notamment les RECP, les haies qui sont travaillées régulièrement et prélevées très régulièrement, puisque ce que j'ai vu me semble plutôt un bois, encore une fois, au regard de ce que je caractérise sur mon territoire. Donc avec probablement, mais j'en suis pas sûr, c'est vraiment une question, des différences quand même majeures entre un linéaire de saule, ces deux grands arbres que tu as décrits en lisière forestière, un alignement de têtards avec un entrebuisson, etc. etc. quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr, et tout ça aura des schémas racinaires bien différents, je pense. Pour juste caractériser un peu mieux, cette haie, c'est une haie donc, d'arbres assez anciens qui ont 20-25 ans. Les grands arbres de derrière n'en font pas partie, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment des arbres forestiers, une hêtraie. Entre les deux, il y a un chemin qui sépare bien les deux, et donc la haie a été mise en place de l'autre côté du chemin, côté champ. Après, elle n'est pas touchée. Elle n'est pas exploitée. Elle est peut-être... je ne sais même pas si elle a été taillée déjà. Nous, on s'est mis... La fosse, elle n'a pas commencé au pied de l'arbre non plus. On s'est écarté, on a commencé la fosse à 1 mètre, 1,50 mètre de l'arbre.
Encore une question.
Bonjour. Benoît Gallo, Pur Projet. J'avais une petite question par rapport à l'essai que vous avez mis en place, très intéressant. Je me demandais si on pourrait tirer des conclusions un petit peu générales de l'effet de cette haie sur du coup l'activité des micro-organismes dans le sol et l'agencement des racines et la capacité de ce système agroforestier à stocker du carbone.
Non, moi je suis pas très bon pour tirer des conclusions générales. Donc là, je préfère me limiter à là-dessus. Parce que déjà, rien que le fait d'avoir un stock de carbone qui augmente légèrement quand on s'éloigne de la haie, c'est pas forcément ce qu'on a vu à Restinclair, bon, où là, les interlignes étaient beaucoup plus rapprochées. Et en termes de biomasse microbienne, par exemple, on a une biomasse microbienne qui est beaucoup plus élevée en profondeur quand on est loin de la haie, quand on est proche. Même si l'efficacité et l'activité microbienne sont plus élevées ici. Donc tout ça, c'est pour moi, c'est une question aussi de diversité, de type de communauté qu'on a, microbienne, de leur diversité, de leur fonctionnement, on va dire, et pas juste une histoire de biomasse. Et forcément, cette diversité microbienne, elle va être due à la diversité des apports de carbone qu'on va avoir dans le sol et donc des types de racines qu'on va avoir. Voilà.
Peut-être encore, comme tu as commencé en retard, peut-être une toute dernière question.
Ouais, c'était peut-être juste pour développer cet aspect accroissement du carbone organique, parce que c'est un peu contre-intuitif pour moi qui ne suis pas expert, parce que vous avez parlé d'un croissant de matière organique qui était plus proche, a priori, de la haie et de l'arbre. Et du coup, d'un accroissement de carbone organique. Alors, cet enrichissement, il est lié à l'arbre. Il est lié à quoi, finalement? Vous pouvez l'expliquer, peut-être, en tout cas pour moi qui ne comprends pas.
Non, tout ce qui va être sur vraiment à une distance de 10 mètres, là, il va quasiment plus y avoir d'effet arbre, en fait. Hein. Donc, ça va être surtout lié à la prairie en place, enfin, je pense, au système racinaire de la prairie en place. Voilà, et donc aux communautés microbiennes liées, à la décomposition des racines du coup qu'on va avoir, qui vont être des racines qui vont se décomposer beaucoup plus rapidement que les racines un peu ligneuses qu'on va avoir ici. Voilà. Donc oui, les contre-intuitifs un petit peu. Et en fait, il faudrait en parler. Pourquoi est-ce que... faut en parler en fait. Parce qu'on s'attendrait... Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une plus forte activité microbienne ici qui fait qu'en surface, on a plus de minéralisation et que donc, on a plus de perte de carbone? Est-ce que... Voilà, je...
Eh bien, on va terminer sur cette réponse. Et donc, Camille, pour la suite...